réplique, présence de Camus avec Vincent Duclert et Vincent Trémollet de Villers. À la fin des années 60 du XXe siècle, on n'était pas tendre dans le monde intellectuel pour Albert Camus. On le regardait de haut, on le trouvait un peu boy scout. Face aux penseurs structuralistes qui brillaient de tout leur feu, son humanisme affiché ne tenait pas la route. La peste et le mythe de Sisyphe le reléguaient au rang de philosophe pour classe terminale. En 1976, encore, Pierre Bourdieu présentait l'homme révolté comme un bréviaire de philosophie édifiante, sans autre unité que le vague à l'âme égotiste qui sied aux adolescences hypocagneuses et qui assure à tout coup une réputation de belle âme. Ce mépris assassin n'est plus de mise, comme en témoigne la commémoration du 60e anniversaire de sa mort. Camus fait aujourd'hui l'unanimité. À droite, au centre, à gauche, tout le monde le cite, tout le monde l'apprécie, tout le monde le célèbre. À l'historien Vincent Duclert, qui publie Camus, Les Pays de Liberté, et au journaliste Vincent Trémollet de Villers, qui a participé au numéro hors-série du Figaro consacré à Camus, je voudrais d'abord demander comment ils expliquent ce triomphe tardif et total. Cela tiendrait-il au fait que, comme l'écrivait Sartre au lendemain de l'accident qui lui a coûté la vie, Camus réaffirmait au cœur de notre époque, contre les machiavéliens, contre le vaudeur du réalisme, l'existence du fait moral. Vincent Duclert.
Ce triomphe tardif d'Albert Camus, je crois, est d'abord à mettre en lien avec l'accès à son œuvre. Son œuvre, aujourd'hui, elle est disponible chez un éditeur et dans une collection Folio. Et cette œuvre est très lue, hein, et elle est portée aussi, j'y insiste, par les professeurs qui aiment enseigner Camus, que ça soit effectivement en philosophie, en lettres et même en histoire. Je renverrai à ce grand roman La Peste, qui était aussi un acte, effectivement, de résistance et une description, effectivement, de l'engagement. Alors, le fait moral dont parle Sartre, je crois que d'abord, on peut peut-être rappeler que, au fond, Camus ne se définit pas comme un moraliste, se définit d'abord comme un écrivain français. Du reste, c'est ses derniers mots dans la conférence qu'il donnera à Aix-en-Provence le 14 décembre 1959. Et deuxième point, c'est le fait que Camus vraiment porte une philosophie de la liberté, qu'il l'incarne dans l'engagement et qu'il paye le prix aussi de ses engagements. Au fond, c'est un homme crucifié, hein, à la fois, je veux dire, de son vivant par le milieu intellectuel parisien notamment, et puis, vous l'avez rappelé effectivement, au lendemain de sa mort et durant un temps long. Et au fond, ce qui est intéressant, Sartre avait compris peut-être que Camus allait marquer effectivement l'idée d'un exemple pour les intellectuels et la société à travers effectivement cette détermination à nommer les choses et à incarner des combats personnels de liberté qui, au fond, ont un grand impact sur des perspectives universelles.
Vincent Trévalet de Villers.
Oui, quand il y a un succès, une célébration et un unanimisme dans notre société contemporaine, il faut parfois se méfier puisque la société d'information a une capacité d'amplification qui entraîne de façon presque mécanique le fait que le message devienne univoque. Après, il est certain, comme l'a dit Vincent Duclert, Camus est lu, Camus est respecté, Camus est cité par les politiques. Mais la question que l'on peut se poser sur sa victoire, c'est est-ce que c'est une victoire de son attitude, de sa civilité, de sa forme d'intellectuel qu'il a été et qui est exemplaire pour beaucoup d'hommes dans la vie publique contemporaine, une vie publique qui est dégagée fort heureusement des fureurs révolutionnaires. Mais on peut quand même se demander s'il n'y a pas un malentendu sur le fond de l'œuvre de Camus et son rapport à l'époque. Vous avez cité la phrase de Sartre, j'ai retrouvé dans Art le vue de droite, la mort de Camus, Roger Nimier écrit 3 jours après la mort de Camus, nous lui reprochions son moralisme, nous lui reprochions de trop parler de l'homme comme s'il en possédait la recette et l'usage. Et donc l'humanisme de Camus que dénonce Roger Nimier, que moquait Sartre en d'autres endroits, finalement était fondé sur quoi ? Il était fondé sur 3 choses. la frontière de la vie intérieure et l'inquiétude spirituelle qui fait que la vie est soit absurde, soit un mystère que l'on pénètre. La notion de nature humaine qu'il définit dans l'homme révolté et les attachements vitaux qu'il dévoile dans le premier homme, que l'on voit de façon parcellaire avant le premier homme, mais qu'il dévoile dans le premier homme. Or, ces trois notions humanistes ne sont pas le cœur de l'époque contemporaine, et je crois même pouvoir dire qu'elles peuvent être contraires à une certaine tendance contemporaine.
Donc, effectivement, son succès reposerait un peu sur un malentendu que nous allons tenter d'explorer. Mais avant cela, je voudrais en revenir un instant à cet hommage de Sartre. Hommage qui a à ce point touché Jean Daniel, qu'il a demandé à Sartre, je crois, de parrainer le Nouvel Observateur à sa création. Il pensait que c'était une réconciliation. Sartre a dit plus tard que c'était l'occasion pour lui de faire une belle page. Et il a continué, et je vais en parler tout de suite, à polémiquer avec Camus après sa mort. Mais d'abord, ce qu'il dit, c'est-à-dire contre le veau d'or du réalisme, il défend le fait moral. Ça m'a rappelé un article de Sartre, peu fréquenté aujourd'hui, « Qu'est-ce qu'un collaborateur ?» hein, situation 3, je crois. Et il dit que s'il y a une décision profonde et originelle qui constitue le fond de la personnalité du collaborateur, se plier au fait accompli quel qu'il soit. Le fait et le droit. Et il dit c'est une maladie intellectuelle qu'on peut appeler l'historicisme. Et en effet, c'est Chardonne qui disait « Je n'estime que les opinions politiques de l'histoire, elles sont inscrites en événements irréfutables, en catastrophes pleines de raisons, et d'avance, j'applaudis à l'événement dont je pâtirais s'il a l'autorité de l'ouragan. » Et ça, c'était en 41 ou 42, l'autorité de l'ouragan. Donc c'est une très belle définition, mais Sartre lui-même a succombé à une autre forme d'historicisme. C'est-à-dire que, et d'ailleurs justement, dans une conférence sur les intellectuels, il explique très bien, l'universel est à faire. C'est-à-dire l'universel s'inscrit dans l'histoire, il est l'objet de l'histoire. Et si on croit défendre l'universel, alors que la tâche n'est pas accomplie, en fait, on défend un camp contre un autre. Et Sartre se moque de l'attitude qui consiste à dire « je ne veux être ni victime ni bourreau ». On est forcément dans un camp. Et Camus, laisse-t-il entendre, est un faux intellectuel, puisque précisément, il prétend défendre l'universel, alors qu'en fait, il défendait les colons pendant la guerre d'Algérie. Donc, un faux intellectuel et même un chien de garde. Et c'est là que, en effet, me semble-t-il, la divergence éclate, et donc, Sartre est injuste, même dans son éloge, quand il dit que Camus est un moraliste, qu'il s'inscrit dans la lignée des grands moralistes, car c'est bien davantage. L'une des grandes questions de Camus, c'est précisément l'histoire fait-elle le tout de l'être ? C'est une question métaphysique, c'est une question ontologique. L'histoire fait-elle le tout de l'être ? Et Camus répond non. Il y a l'histoire et il y a autre chose. Et il me semble, Vincent Duclerc, que c'est un leitmotiv de la pensée de Camus, qu'il faut prendre très au sérieux. Voilà pourquoi l'attaque de Pierre Bourdieu est particulièrement injuste. L'homme révolté est un livre sans doute maladroit, mais extrêmement profond, puisqu'il tourne justement autour de cette question, la nature et l'histoire, y a-t-il place en nous pour quelque chose comme la nature ? Vincent oui, Duclerc.
Je pense qu'il faut vraiment souligner l'insistance de Sartre et les Sartriens à démolir Camus. Et donc là, ça révèle quand même que Camus est un danger pour cette pensée marxiste, pour cette pensée effectivement qui estime que l'universel ne peut se construire que dans l'histoire. Et l'homme révolté n'est pas du tout effectivement une sorte de rêverie moraliste au-dessus de l'histoire. Au contraire, l'homme révolté, qui est un livre effectivement maladroit mais en même temps très profond sur un plan y compris philosophique, c'est-à-dire que l'homme révolté se saisit de l'historicisme, matérialisme historique et essaye effectivement de montrer que l'individu peut, tout en assumant ce matérialisme historique, eh bien, changer l'histoire vers la liberté et le lien avec la justice. Donc, c'est une pensée extrêmement forte aussi dans la mesure où il se saisit de la question, effectivement, philosophique centrale qui est, effectivement, la place de l'homme dans l'histoire. Et lui, effectivement, grâce aussi au travail qu'il mène sur révolution, révolte, c'est-à-dire comment est-ce que, au fond, une révolution qui tiendrait les deux bouts de la justice et de la liberté, eh bien, permettrait une émancipation à la fois individuelle et collective. Et de ce point de vue-là, Moi, j'ai été frappé dans L'Homme révolté par la place qu'il accorde à la création artistique comme instrument précisément de la liberté face à l'histoire. Et je dirais que la philosophie qui émane de L'Homme révolté, moi, m'a rappelé de manière très profonde. Alors, c'est vrai que c'est des auteurs sur lesquels je travaille, mais à la fois Jaurès dans sa thèse qui, effectivement, tente de penser, je veux dire, l'idéalisme dans la lucidité face au matérialisme historique, et puis Elia Lévy qui essaye, effectivement, d'assumer dans l'ère des tyrannies, effectivement, un monde absolument effrayant, et effectivement de dire qu'on peut penser précisément ce matérialisme historique, et déjà le penser, c'est s'en libérer. Et c'est ce que, effectivement, les Sartriens ne supporteront pas. Et je crois que, au fond, bien sûr, les Sartriens ont tenté, effectivement, de minimiser, d'humilier Albert Camus et Sartre en premier, mais c'est parce que ils représentaient, effectivement, un véritable danger, d'autant que Camus venait de la gauche libertaire, il est toujours resté, effectivement, à gauche.
L'attitude de Sartre, la phrase de Bourdieu et la formule très célèbre de Brochier sur le philosophe de classe terminale témoigne quand même d'une suffisance et d'une morgue intellectuelle qui a emmené un certain milieu à se dévoyer. Parce que, qu'on s'entende bien, l'adolescence et la classe terminale est un âge philosophique, est un âge métaphysique. Et c'est un orage de l'esprit qui fait que l'esprit s'ouvre à des inquiétudes auxquelles il n'accédait pas auparavant. Et par L'Homme révolté, même si, comme vous le disiez très bien, Vincent Duclerc, c'est un livre qui peut paraître maladroit et qui a certains aspects maladroits, Albert Camus arrive à se mettre au diapason de cette inquiétude et de cet âge. Et il parle à l'esprit et à l'âme ou au cœur ou à la conscience de l'élève de classe terminale qui le lit. Et donc il l'ouvre au champ philosophique. Il répond tout simplement à cette question que se pose notre époque. Comment peut-on se conduire quand on ne croit ni en Dieu ni à la raison? C'est une question que toute personne qui a 16 ou 17 ans et qui penserait à autre chose que les plaisirs quotidiens se pose et qui est hantée par cette question. Et L'Homme révolté permet cela, et moi je n'aime pas beaucoup parler de moi, mais il se trouve que j'ai lu ce livre en classe terminale et qu'il m'a ouvert des champs et qu'il m'a entraîné à lire d'autres ouvrages. Donc je crois vraiment que ces formules de notamment si on prend celle de Bourdieu, de gens qui ont défendu l'idée qu'il existait une caste d'intelligence qui ne donnait pas accès au savoir à des gens plus humbles, pratiquent exactement ce qu'ils dénoncent.
Ah oui, mais j'ajouterais deux choses. Sartre, dans l'article qu'il a écrit sur L'Homme révolté pour les temps modernes, descend Camus en flamme, on peut le dire. Mais c'est une descente en flamme appelée à une certaine postérité, c'est-à-dire l'adversaire, celui qui est, selon Sartre, du mauvais côté de la barricade, eh bien, il est frappé d'une double critique. La première, c'est il a choisi le mauvais côté, donc, et la deuxième, il est nul. Et Sartre dit, et si votre livre témoignait simplement de votre incompétence philosophique, s'il était fait de connaissances ramassées à la hâte et de seconde main. Et je dois dire que cette conjonction de deux critiques est devenue, si vous voulez, un lieu commun, si j'ose dire, de la pensée progressiste, ou qui se veut progressiste. Si vous n'êtes pas d'accord, en plus, vous êtes incompétent. Donc, c'est effectivement une attitude pleine de morgue, très pénible, et en plus, je crois que c'est commettre une très grande injustice à l'égard de L'Homme révolté, qui, je le disais, est un livre profond dans cette remise en cause de l'histoire. Et chez Camus, ça commence même déjà dans la lettre à un ami allemand. Nous vivons dans la terreur parce que l'homme a été livré tout entier à l'histoire et qu'il ne peut plus se tourner vers cette part de lui-même, aussi vraie que la part historique, et qu'il retrouve dans la beauté du monde et des visages. Voilà. On est obligé de tout sacrifier à l'histoire. Mais c'est terrible. Et évidemment, quand la guerre est finie, Camus dit, bon, ben on va fermer la parenthèse. Et on va d'ailleurs retrouver notre mentalité politique, qui n'est pas simplement la mentalité du combat, et où l'adversaire n'est pas l'ennemi qu'il s'agit de haïr. Et il le dit sans cesse, on ne vit pas que de lutte et de haine, on ne meurt pas toujours les armes à la main, il y a l'histoire et il y a autre chose, le simple bonheur, la passion des êtres et la beauté naturelle. Et c'est encore une fois le grand thème de L'homme révolté, je cite une phrase dans les pages conclusives, la révolte est dans l'homme le refus d'être traité en chose et d'être réduit à la simple histoire. Elle est l'affirmation d'une nature commune à tous les hommes qui échappe au monde de la puissance. L'histoire certainement est l'une des limites de l'homme, en ce sens le révolutionnaire a raison, mais l'homme dans sa révolte pose à son tour une limite à l'histoire. Voilà. Il y avait une sorte de vertige prométhéen. Ce que l'histoire a mal fait, l'histoire peut le refaire. Et Camus est un penseur de la limite. Il faut limiter cette ambition prométhéenne. Il y a des choses que l'homme ne doit pas faire ou refaire ou défaire, mais simplement préserver. Et ça, il y a une force, non seulement morale, mais philosophique, dans ce message-là, qui a été très longtemps sous-estimé, Vincent Duclert.
Oui. Et non seulement Camus est un penseur de la limite, mais un penseur de la nuance et de l'exigence de nomination des choses. Et cette fameuse, effectivement, citation de Camus, qui est très importante, « Mal nommer un objet, s'ajouter au malheur de ce monde ». Et c'est précisément, je pense, que Sartre lui reproche, c'est au fond d'avoir accompli un progrès dans la réflexion philosophique en l'ouvrant. Et moi, je suis très sensible, parce que j'ai Vincent Trémollet, sur le fait que Camus, donc philosophe de classe terminale, au fond, il faut le prendre comme, je veux dire, un hommage. Parce que moi aussi, je veux dire, j'ai lu Camus quand j'étais en terminale. Ma mère m'a offert l'ouvrage que vous avez là sur votre bureau, c'est-à-dire les essais de la Pléiade de Roger Quilliot. Et effectivement, c'est une découverte majeure, parce que on comprend aussi que la philosophie peut porter, effectivement, tout un monde, et pas seulement, effectivement, donc des normes qui sont celles effectivement très, au fond, très conservatrices de Jean-Paul Sartre. Et pour peut-être éclairer quand même l'importance de la pensée philosophique de Camus, je crois qu'il faut revenir à ce qu'il envisageait comme expérience, ses propres expériences. D'abord l'expérience de la résistance, au fond la résistance et la création de combat, qui est un journal de tout à fait exceptionnel sur le plan, de la réflexion sur l'histoire animée en partie par Albert Camus et qui montre que finalement, face à l'entreprise nazie, il y a la possibilité pour un petit groupe d'hommes et de femmes, effectivement, de repousser ce matérialisme historique et cette domination de l'histoire. Et puis, vous avez évoqué effectivement les attaques contre Albert Camus, traité de colonialiste face à l'Algérie et la guerre d'Algérie. En fait, c'est extrêmement différent, et Camus le dit bien dans tous les textes qu'il écrit. Il dit, au fond, ce que la France a réalisé finalement cette destruction des sociétés indigènes à travers le colonialisme, la France, parce que c'est un grand pays de liberté, pourra le défaire en apportant la complète liberté à l'ensemble des communautés, et donc d'une certaine manière, la question de l'indépendance se posera moins, parce qu'il y aura véritablement une nation algérienne faite d'égalité et de liberté. Et il a tenté de réussir ce pari en rassemblant les libéraux européens et les libéraux arabes, kabyles. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, Camus, est reconnu par une partie des intellectuels indépendants d'Algérie, et c'est aussi un hommage qui lui est rendu.
Mais on peut considérer, Vincent, on peut penser, moi je ne suis pas un spécialiste comme vous, je suis un simple lecteur qui fréquente l'œuvre de Camus, mais on peut penser, pour revenir sur ce que vous disiez sur l'histoire et l'esprit révolutionnaire, que chez Camus, il y a évidemment une prise en compte du moment politique, et notamment quand il est tragique comme celui des événements d'Algérie, mais il y a aussi une notion qui peut-être prime là encore dessus, qui est la notion de la morale, mais de la morale intérieure. Qu'est-ce qui distingue un révolutionnaire de quelqu'un qui n'est pas révolutionnaire ? Un révolutionnaire pense que la ligne qui sépare le bien et le mal est extérieure à lui, et que le mal est à détruire, et qu'une fois qu'il sera détruit, le bien s'installera. Solzhenitsyn a très bien défini le contraire en disant que la ligne qui sépare le bien et le mal est à l'intérieur de chaque être, traverse chaque être. Et je pense que Camus est hanté de cette idée, et c'est cette idée-là qui l'anime, et donc il est moqué pour son attitude de part et d'autre, par les deux camps au moment de la guerre d'Algérie, sans que jamais on réfléchisse à l'idée suivante, est-ce qu'il ne veut pas maintenir dans cette dialectique, justement, cette possibilité d'une forme, je dirais pas de pureté, mais de dignité d'attitude, malgré le choix qu'on lui impose. Il me semble qu'en ça, il rejoint Antoine de Saint-Exupéry, ces deux écrivains qui sont frères à beaucoup d'aspects, parce que il est une forme de défenseur de ce tabernacle intérieur que la vie moderne aimerait détruire et broyer.
Alors, oui, c'est vrai, et en écho à ce que vous dites, Vincent Trémollet-Hilaire, j'ajouterais que Camus se révolte contre le dualisme de la vision commune de l'histoire. Il veut laisser un certain nombre de choses en dehors de l'histoire, et il ne veut pas réduire l'histoire à la simple division des oppresseurs et des opprimés. Mmh. Et notamment pour ce qui concerne l'Algérie, si on en vient au premier rang, dans une note préparatoire, il écrit ceci, « Aux Arabes, je vous défendrai à n'importe quel prix, sauf au prix de ma mère, parce qu'elle a connu plus que vous l'injustice et la douleur. Et si dans votre rage aveugle vous touchez à elle, ou risquez d'y toucher, je serai votre ennemi jusqu'au bout. » Il n'y a pas d'hostilité, de tonalité guerrière dans le premier homme, mais il y a cette idée de faire entrer, à travers son œuvre dans la littérature, cette famille de muets, comme il dit, qui étaient des colons, mais qui n'étaient pas des colonialistes, qui ne faisaient pas suer le Bournou. Et c'est effectivement une réalité que Sartre et les progressistes de l'époque ne voulaient absolument pas voir. Et en effet, c'est quand même la part de vérité que Camus essaie de maintenir dans le premier homme, même s'il a par ailleurs renoncé à intervenir politiquement en Algérie, parce que son appel à la trêve civile n'a eu aucun écho. Vincent Trémollet de Vinet.
Il a renoncé, enfin, on lui a intimé l'ordre, d'une certaine manière, de se taire. Hein. Je veux dire, souvent on dit que Camus ne parle plus, donc après l'échec de l'appel à la trêve civile de 1956. On l'empêche effectivement d'être entendu. Je veux dire, actuel 3, les chroniques algériennes sont passées sous silence du monde parisien. Hein. Et Camus, je veux dire, souhaitait continuer à parler pour défendre effectivement cette utopie réaliste qui vraiment s'inscrivait aussi dans l'expérience. Hein, l'expérience, c'est quand même, je veux dire, aussi ces articles de misère de la Kabylie, je veux dire, qui en fait quand même l'un des premiers anticolonialistes ou dénonciateur du colonialisme, hein, il faut s'en souvenir, et c'est ce que Camus répondra, je veux dire, à l'étudiant membre du FLN qui l'interpellera assez violemment lors de sa conférence de presse à Stockholm après le prix Nobel. Donc il faut souligner effectivement cette volonté, je veux dire, de s'opposer à la violence extrême. C'est-à-dire que Camus a compris aussi que la violence allait pervertir à la fois les ultras colonialistes et le FLN. Et d'une certaine manière, on peut quand même considérer que Camus a eu raison si l'on observe effectivement le destin ensuite de l'Algérie. Et vraiment, au fond, l'honnêteté d'Albert Camus, en même temps que cette utopie d'essayer de dépasser la guerre pour maintenir la paix, c'est, je crois, une des grandes questions aussi qui traverse nos sociétés. Comment faire société commune avec une multitude de communautés? Et Camus, finalement, là, face à la guerre d'Algérie, donne des réponses importantes. Et peut-être juste pour finir, ce que disait Vincent Trémollet, je veux dire, sur effectivement la manière dont Camus, très honnêtement, tient compte de son propre trouble. Et c'est vrai, Camus est honnête aussi par rapport à ses hésitations, ses difficultés. Dans un monde, dans le monde intellectuel, où il faut surtout pas apparaître fragile ou en doute. Et ses carnets, ses déclarations, sa correspondance, hein, ses correspondances sont très très belles. Et à chaque fois montre sa difficulté, cette incertitude qui le travaille. Et il a l'honnêteté, effectivement, de le reconnaître.
On pourrait dire que son milieu intellectuel est romantique et que lui, il est grec et il est tragique. C'est-à-dire que quand cette phrase très célèbre, Antigone a raison, mais Créon n'a pas tort, qui peut entraîner beaucoup de malentendus, c'est-à-dire qui peut être analysé comme une forme de en même temps, qui permet d'être un peu dans chaque camp et tout se passera bien, et évacuer le tragique de cette phrase, qui est la définition propre de la tragédie. C'est-à-dire que le drame oppose un bien certain contre un mal condamnable. La tragédie oppose deux mauvaises solutions. Et donc, il est au cœur de cette tragédie. La Méditerranée, pour lui, est tragique et à la fois l'objet de sa contemplation et de sa consolation. Et dans ces événements d'Algérie, il a le décor historique de cette tragédie intérieure.
Oui, alors, pensée tragique, pensée grecque. Et là, je voudrais ouvrir un des textes les plus impressionnants de Camus, l'exil d'Hélène, dans l'été. Hélène, l'exil d'Hélène. Et donc, il en revient à cette pensée grecque dont nous avons besoin. Parce que, dit-il, la modernité a fait sombrer l'Europe dans la démesure. Camus, c'est une pensée de la mesure, et André Breton lui a vivement reproché de vouloir marier la révolte et la mesure. Il n'y avait pas que les communistes et les compagnons de route qui se moquaient de Camus à ce moment-là. Il y avait aussi toute l'avant-garde et notamment les surréalistes. Mais il s'en tient là. Nous avons exilé la beauté. Les Grecs ont pris les armes pour elle. C'est ça l'exil d'Hélène. La pensée grecque s'est toujours retranchée sur l'idée de limite. Notre Europe, au contraire, lancée à la conquête de la totalité, est fille de la démesure. Et nous avons remplacé la notion de nature humaine par celle de situation. Et voici cette phrase quand même, extraordinaire. « Tandis que les Grecs donnaient à la volonté les bornes de la raison, nous avons mis, pour finir, l'élan de la volonté au cœur de la raison qui en est devenue meurtrière. » Quelque chose de heideggerien dans cette phrase. Heidegger parle de l'âge de la technique comme celui de la volonté de volonté. Le monde a été amputé de ce qui fait sa permanence, la nature, la colline, la méditation, la mer, la méditation des soirs. Et là, je vois aussi que notre époque n'est pas à la hauteur de Camus, donc de l'amour qu'elle lui voue, parce que tout cela, évidemment, devrait inspirer la pensée écologique, la beauté du monde, ce qui est en train de disparaître. Mais la beauté n'est pas quantifiable, n'est pas calculable. Or, la raison calculante règne sur l'écologie dominante. C'est-à-dire, on calcule, on ne regarde pas. Et d'autre part, deuxième critique qu'on peut faire à notre modernité qui n'écoute pas assez Camus, elle continue à dire que tout est historique. Pas au sens peut-être de Sartre et de l'aspiration générale au communisme, mais la culture, c'est le culturel, et le culturel, c'est ce qui peut être modifié, révoqué, remodelé. Donc Camus se révoltait contre l'idée d'une plasticité de la nature, et notamment de la nature humaine, mais cette idée est au cœur de nos entreprises. On le voit bien aujourd'hui. D'ailleurs, qui se réfère à la loi naturelle est l'objet immédiatement de moqueries. On l'a vu au moment.
On n'a plus la peine de débattre avec lui, non, non.
Non, on a vu au moment des débats sur la procréation médicalement assistée pour toutes, bientôt sur la gestation pour autrui. Donc, l'exil d'Hélène continue et l'historicisme, me semble-t-il, est plus que jamais à l'ordre du jour. Vincent Duclair.
L'exil d'Hélène continue et Camus a, vous l'avez bien rappelé en lisant Camus, s'est efforcé de lui redonner une place à travers effectivement cette dimension de la mesure. Mais cette dimension de la mesure, cette pensée de la mesure que Camus retrouve aussi dans la Méditerranée, elle a un objectif extrêmement fort d'un point de vue philosophique et d'un point de vue politique, c'est au fond, de permettre que liberté et justice puissent s'articuler, puissent s'unir. Car Camus voit bien que, au nom de la justice, on légitime des tyrannies. Et que c'est la liberté, et d'abord la liberté de l'esprit, qui incombe et qui permet effectivement d'avoir des démocraties qui pensent la question sociale tout en affirmant la dimension suprême de la liberté. Je crois que de ce point de vue-là, cette pensée de la mesure, elle est très ambitieuse d'un point de vue et d'un point de vue politique. Le deuxième point, à travers effectivement ce grand texte de l'exil d'Hélène, c'est au fond la nécessité de la beauté. Donc ça renvoie beaucoup à la part maudite de Georges Bataille. Georges Bataille a beaucoup, défendu Albert Camus, notamment contre les surréalistes, avec donc l'idée que c'est précisément le progrès de la société, c'est de défendre la beauté d'une certaine manière, ce qui n'est pas quantifiable, ce qui relève, au fond de l'esprit et qui montre, un grand progrès. Enfin, je dirais que sur la nature, c'est important. C'est vrai que Camus, et on le voit à travers ses grandes descriptions, des lieux, des paysages, et en particulier d'Alger, de l'Algérie, d'Oran y compris, on est dans une évocation, un amour de la nature, du vivant, et en même temps, Camus ne sépare jamais font cette nature des sociétés. Et je crois que c'est ce qui différencie énormément d'Heidegger, précisément. Heidegger qui avait une vision effectivement très particulière, je dirais, des sociétés, notamment en adhérant, comme on le sait, au nazisme. Et de ce point de vue-là, je crois que... et c'est pour ça que j'ai souhaité, dans mon livre donc consacré à Camus, le sous-titrer « Des pays de liberté ». Parce que les pays, toute cette dimension de la nature du sensible que Camus assume complètement, il le ramène toujours vers des questions de société, des questions politiques. Et sur la Grèce, par exemple, il est très sensible, effectivement, au destin de la pensée grecque. Et en même temps, il défend les prisonniers politiques en Grèce.
Oui, alors, quand même, deux choses. Avant de donner la parole à Vincent Trémollet de Villers, je ne crois pas pour Camus, la beauté relève de l'esprit. Elle est vraiment un attribut du monde. Et le monde autre que l'homme, parce que il y a la place pour l'autre que l'homme dans sa pensée, la nature justement, et aussi le monde façonné par l'homme, les paysages. Et deuxièmement, Heidegger, sa pensée n'est pas réductible à son adhésion au nazisme. Tout serait simple, il n'y aurait pas de scandale si on pouvait effectivement considérer ça, faire de cela un bloc. Je rappelle que René Char et Heidegger étaient amis. René Char était le plus grand ami de Camus, et ce rappel n'est pas anecdotique. Parce que, à l'âge de la technique, dit Heidegger, être, c'est être disponible, manipulable, machinable, et remplaçable. Donc, et lui aussi s'interroge sur cette plasticité de l'être, sur la place de l'indisponible dans la société moderne. Et ce sont des thèmes, encore une fois, que l'on retrouve dans Camus. Alors je ne voudrais pas les rattacher trop fortement l'un à l'autre. Je pense qu'il y aurait notamment sur le plan politique de très fortes divergences, même si encore une fois Heidegger n'est pas exclusivement rattachable dans son adhésion au nazisme. Mais le climat philosophique n'est pas si différent de ça. Il y a des résonances. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Alors, il y a dans ce beau texte, L'exil d'Hélène, d'autres correspondances, et il y a notamment cette réponse à la lettre au général X de Saint-Exupéry que cite Camus, avec cette phrase très forte et très terrible de Saint-Exupéry, « Je hais mon époque ». Et là, Camus, on parlait, le sujet de cette émission, ces présences de Camus, donne à ceux qui pourraient ressentir ce sentiment un chemin qui m'apparaît comme exemplaire. Il dit « Je hais mon époque », écrivait avant sa mort Saint-Exupéry, pour des raisons qui ne sont pas très éloignées de celles dont j'ai parlé. Donc il est d'accord avec le constat de Saint-Ex. Mais si le bouleversant que ce soit, ce cri venant de lui qui a aimé les hommes dans ce qu'ils ont d'admirable, nous ne le prendrons pas à notre compte. Et là, il surmonte le désespoir d'Antoine de Saint-Exupéry et il donne deux remèdes pour surmonter ce désespoir qui m'apparaissent absolument pertinents aujourd'hui. Le premier, c'est la beauté, vous l'avez très bien dit. En ça, c'est un grand lecteur de Dostoïevski, il veut croire que la beauté sauvera le monde. Et le deuxième, c'est quand même la création artistique et le rôle de l'artiste. Et là, il y a un grand mystère, et on va peut-être arriver à ces feuillets que l'on a retrouvés après son accident mortel, c'est ce refuge, ou peut-être cette dernière expression qui est purement littéraire, mais qui peut-être ramasse en elle beaucoup de réponses que Camus voulait donner à ses détracteurs, que ce soit sur le plan philosophique ou sur le plan littéraire.
Oui, d'ailleurs, je voulais y venir. Vous me devancez, Vincent Trémollet de Villers. Présence de Camus, aujourd'hui, ça a un autre sens qu'il y a 20, 30 ans peut-être, parce que nous avons lu, découvert le premier homme. Chef-d'œuvre posthume et en même temps œuvre inaugurale. C'est une autre voix que fait entendre Camus, et je crois que nous y sommes tous les trois extrêmement sensibles, vous le dites à plusieurs reprises, Vincent Duclerc, dans votre livre justement. Qu'est-ce que le premier homme nous apporte dans la connaissance de Camus, voire dans la connaissance du monde, et qu'est-ce qu'il vous a apporté, Vincent Duclerc ?
Le premier homme, c'est déjà un ouvrage sur l'écriture littéraire. Moi, j'étais très frappé de la manière dont, finalement, le premier homme, c'est une sorte de temps retrouvé pour les invisibles, pour ceux dont Albert Camus souhaitait porter la voix. Et la réflexion d'Albert Camus sur la recherche du temps perdu traverse son œuvre. Rappelons quand même que Jean Grenier lui offre, donc très jeune, une édition complète de la recherche, qu'Albert Camus est proche de Germaine Bray, qui est une universitaire franco-américaine qui a publié un très grand livre sur la recherche du temps perdu. Et effectivement, dans L'Homme révolté, il y a des pages lumineuses sur l'entreprise de Marcel Proust. Et donc, Albert Camus a compris que, finalement, pour exprimer sa pensée sur l'histoire, pour exprimer aussi la manière dont il témoigne du monde, il faut effectivement mener cette grande œuvre, Guerre et paix, d'une certaine manière, on en a parlé, on en a pu associer le premier homme à ce roman. Et donc, ce roman, il le pense très tôt, on le sait, dès la fin de la peste, au moment où il va avec son ami Louis Guillou et Jean Grenier sur la tombe de son père à Saint-Brieuc, et déjà se met en place effectivement ce grand projet qui relève, selon moi, du temps retrouvé de Marcel Proust. Et au fond, ce qui est très intéressant et qui démontre l'ampleur de l'entreprise camusienne avec le premier homme, c'est cette immense difficulté qu'il a à écrire. Et Camus est profondément malheureux de ne pas être dans la création, et il va finir par finalement écrire, alors là, finalement rapidement, c'est intéressant, tous ces feuillets qui sont retrouvés, qui font que le roman est quasiment achevé, à Lourmarin, où en achetant cette maison dans le Luberon, grâce à René Char, largement, il met fin à son exil, l'exil de la pensée de midi. Il trouve un lieu et il écrit. Il est heureux, et ça aboutit effectivement à cette œuvre.
Vincent Trémollet-Dillers.
Le premier homme éclaire autrement toute l'œuvre et finalement toute l'histoire et de Camus, puisque Il prend une autre forme que celle qu'il a pris dans ses précédents romans, comme s'il dégageait, il évacuait définitivement l'intention philosophique de l'écriture. La peste et l'étranger peuvent être appréhendés comme des romans de l'esprit. Le premier homme, c'est un roman de chair et de sang. C'est un roman organique. C'est un roman de sensualité, et c'est pas la sensualité adolescente de Nos Atipasas. Il y a quelque chose de la nostalgie. C'est un adulte qui songe à ça. Et moi, je en réfléchissant à cette émission et en relisant les choses, je me disais, mais est-ce qu'il finalement il n'a pas voulu répondre à deux critiques? La première, à Sartre, en lui répondant par la littérature et par un chef-d'œuvre littéraire définissant ce qu'il avait essayé d'expliquer par la raison, et puis aussi aux critiques qu'il a pu subir au moment de son prix Nobel, que beaucoup ont moqué comme s'il était un peu immérité. Et il veut se hisser au niveau des grands tempéraments romanesques du XXe siècle. Il le fait de façon presque explicite. Vous parliez du temps perdu. Il le dit explicitement dans le premier homme. Le temps perdu ne se retrouve que chez les riches. Pour les pauvres, il marque seulement les traces vagues du chemin de la mort. Donc là, il fait une référence explicite à Sartre. Il en fait une, Voyage au bout de la nuit, quand à la fin d'un chapitre, Jacques Cormery monte sur le pont, il trouverait Alger au bout de la nuit. Il y a l'équivalent de la chasse, la longue chasse des Rostov de Guerre et Paix avec son oncle illettré. Et donc, il veut, et il y parvient, moi il me semble, parce que je considère le premier homme comme un des chefs-d'œuvre du XXe siècle, il parvient à se hisser à la hauteur des grands chefs-d'œuvre universels de la littérature, qui par leur qualité d'écriture, leur puissance de sentiments, leur mélange de sensualité et de vérité dans la description de l'existence, parviennent à tout emporter des contradictions.
Dans ce livre, en effet extraordinaire, on trouve le motif profond du désaveu camusien de l'histoire comme grand englobant, parce que il nous dit qu'il a été là, il a eu la chance d'être pauvre au milieu de la beauté. Il y a eu l'expérience enfantine de la générosité surabondante de l'être. Je ne vais pas trop heideggerianiser tout ça, mais enfin, c'est il y a traduit par Esgib. Enfin, Esgib traduit par il y a, Esgib se la donne. Et le dénuement l'a exposé en le privant de tous les divertissements, de tous les amortisseurs qui calfeutrent les vies bourgeoises. Elle l'a ce dénuement l'a exposé aux éléments. Il a connu un peu la puissance et la gloire, d'ailleurs, il dit, pendant des heures sans frontières, sur un territoire sans limite, sa tête, la tête de Jacques Cormery, puisque c'est le nom du héros du premier homme, le nom qu'il se donne, sa tête perdue dans la lumière incessante et les immenses espaces du ciel, il se sentait le plus riche des enfants. Voilà. Donc il y a déjà ça aussi dans le premier homme. C'est un festival de sensations, car il lui a été donné de goûter en Algérie, le monde, et son patriotisme algérien est fondé sur cette expérience originelle.
Il y a une fierté aristocratique, oui. On peut la définir ainsi. Par un moment, quand il sort de l'eau après une baignade, il dit nous étions des seigneurs. Et il y a un principe aristocratique de la pauvreté et de l'enfance dans ce décor algérien.
C'est effectivement le premier homme, c'est une réponse donc à la fois à Sartre et à tous ceux qui disaient qu'il était un écrivain fini. C'est aussi une réponse à ceux qui refusent d'entendre sa pensée sur l'Algérie. Et là, le premier homme, c'est bien de montrer effectivement comment est-ce que ces communautés pourraient, avec la liberté qu'apporterait au fond une France idéale, mais qui existe, dans les cœurs et dans les esprits, pour Camus, eh bien de les lier et donc d'éviter le basculement dans la violence extrême. Au fond, ce qui est aussi très intéressant avec le premier homme, et du fait aussi des circonstances de la découverte des feuillets dans l'épave de la Facel Vega, c'est que, bien sûr, on a une œuvre, et vous avez raison de comparer l'ouvrage à ces grands chefs-d'œuvre de la littérature contemporaine, et en même temps, Camus ramène l'œuvre au niveau, au fond, de l'individu à travers la manière dont se construit, s'élabore une œuvre. Camus renseigne sur l'enquête qu'il mène dès la libération pour réfléchir à ce que signifie être d'Algérie. Dans sa correspondance, et c'est pour ça que c'est important qu'on ait la correspondance de Mette Ivers, parce que elle renseigne aussi beaucoup, c'est ça, la jeune Danoise avec laquelle il a vécu très heureux des moments effectivement fort, et elle a accompagné donc ce travail sur le premier homme. Et l'intérêt du premier homme et de l'édition effectivement de Catherine Camus de 94, c'est de nous faire comprendre aussi que voilà, un chef-d'œuvre n'arrive pas comme ça tombant du ciel, qu'il y a toute un travail, un processus, des difficultés, et que d'une certaine manière il est peut-être à la portée de tout le monde.
Il faut préserver en chacun sa capacité d'admiration, et admirer, c'est précisément le fait de s'incliner devant ce dont on est soi-même pas capable, je crois. Mais en tout cas, vous avez raison, Vincent Duclair. Il y a tout un processus que Camus raconte, et il glane des informations pour faire vivre ce qu'il appelle les muets, parce qu'ils sont muets. Sa mère parle à peine, sa grand-mère est analphabète, et son père, mutisme absolu, ne l'a pas connu puisqu'il est mort quand Camus avait 1 an. Il était une des premières victimes de la Première Guerre mondiale. Mais un adulte, et ça c'est ce que raconte le premier homme, Camus, ou Jacques Cormery en l'occurrence, tombe sur son ancien directeur d'école. Et celui-ci est dépositaire d'une anecdote précieuse. Une anecdote précieuse, c'est-à-dire qu'il faisait la guerre en 1905 au Maroc, et tout d'un coup, ils ont vu un soldat français tué, et il avait été égorgé, et dans sa bouche, cette boursouflure livide était son sexe entier. Le père de Camus, Lucien Camus, est absolument révolté. Monsieur l'évêque essaye de contextualiser la chose, et il dit à un moment donné, un homme ne peut pas se permettre ça, dit le père, et réponse de monsieur l'évêque, pour eux, dans certaines circonstances, un homme doit tout se permettre, les circonstances de la guerre, circonstances de l'oppression, etc., contexte culturel, et à ce moment-là, le père a cette réponse. Non, un homme, ça s'empêche. Voilà ce qu'est un homme, ou sinon. Un homme, ça s'empêche. C'est extraordinaire, cette phrase, parce que on était dans l'univers de la praxis, l'homme se définit par ce qu'il faisait, par ce qu'il était capable de faire, et là, tout d'un coup, la définition, l'homme se définit par ce qu'il s'empêche de faire, par le scrupule, ou la honte. Et je dis cela simplement parce que cette phrase, qui est son unique héritage, Camus en a fait le fondement de sa philosophie.
De sa philosophie.
C'est l'homme révolté. La révolte nous conduit à penser qu'un homme, ça s'empêche, qui est une idée de la révolte tout à fait surprenante, tout à fait originelle.
C'est la réponse à la pulsion révolutionnaire telle que on lui reprochait de pas y céder. Enfin, vraiment. Donc, c'est vrai qu'il donne la clé cette phrase de son père qu'il n'a pas connu, de sa pensée philosophique. Après, moi, je trouve qu'il y a aussi dans le premier homme, et c'est peut-être le dernier malentendu avec le succès ou en tout cas la commémoration que l'on a connue autour d'Albert Camus au début du mois de janvier, c'est que le premier homme est un livre de piété filiale. C'est un exercice de piété filiale. Alors comme il ne connaît pas son père, il le recherche. Il y a aussi la piété filiale s'exprime aussi vis-à-vis de Monsieur Germain, son instituteur. Camus note dans un carnet: en somme, je vais parler de ce que j'aimais et de cela seulement, joie profonde. Et un peu plus loin, il écrit: ils étaient plus grands que moi. Et donc, il fait le roman des attachements vitaux. Et ces attachements vitaux, que sont la famille, que sont la terre, que sont les liens que l'on établit dans le jeune âge, sont des attachements qui, très souvent aujourd'hui, sont moqués quand l'homme est considéré comme un voyageur sans bagage qui pourrait se déplacer d'un lieu à l'autre et d'une structure à l'autre sans qu'il n'y ait de conséquences sur son être. Et donc, en cela, le premier homme ne me paraît pas du tout en adéquation avec une forme de doxa qui existe aujourd'hui.
Alors justement, Vincent Duclerc, vous avez insisté au début de notre conversation sur le rôle que l'idée de liberté jouait dans l'œuvre de Camus. Mais la liberté, on la définit traditionnellement comme un arrachement. Hein, et comme le dit Vincent Tremonet de Villers, Camus est aussi un penseur, un romancier des attachements vitaux. « Voici les miens, mes maîtres, ma lignée », dit-il dans le premier homme. Donc, c'est la liberté, mais ce n'est pas la liberté seulement.
Oui, alors, ces liens vitaux, déjà, je dirais, moi je suis absolument d'accord sur effectivement ce travail, j'en ai parlé, là, de au fond, qui s'apparente au temps retrouvé pour moi, effectivement, de comprendre comment est-ce qu'il s'est construit, il a été construit dans cette expérience donc d'Alger, des amitiés, de l'altérité. Mais ces intérêts vitaux et ces liens vitaux, ils sont pensés, ils sont questionnés, hein, et questionnés notamment par cette liberté de l'esprit que Camus exige de lui-même et des autres. Et je pense, alors là, c'est effectivement un débat qu'on peut avoir, mais que même si ces liens vitaux sont essentiels pour, au fond, construire les individus, ils ne peuvent aller vers un abandon, précisément, de la liberté. C'est la définition de l'Europe, en fait, que donne Camus, et qui renvoie beaucoup, vous avez parlé d'Heidegger, je vois qu'on n'est pas tout à fait d'accord, mais ce n'est pas grave, je dirais que Camus se rattache beaucoup à la pensée d'Husserl, des deux grandes conférences de Vienne et de Prague, d'avant la Seconde Guerre mondiale. Et de ce point de vue, c'est l'Europe se construit, bien sûr, à travers des lieux, à travers des cultures, mais à travers une pensée de la liberté. Et c'est cette pensée de la liberté qui donne du prix, je crois, justement, aux liens vitaux. Et la grande question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que finalement la liberté vécue par Camus, incarnée par lui-même, est-ce que ce n'est pas aussi ces liens vitaux qui, effectivement, ne sont pas ancrés dans des lieux, dans des attachements, dans des figures paternelles ou maternelles, mais qui constituent aussi des racines profondes et des racines sensibles?
Ben, oui, on peut pas. Il serait faux de considérer que le premier homme définirait un Camus qui serait enfermé dans ses attachements. Je crois pas du tout que ces attachements empêchent l'épanouissement de sa liberté. Je crois même que c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il veut rendre à ceux qui lui ont permis d'être ce qu'il est, ce qu'il leur doit, cela même, qu'ils ne sont même pas capables de comprendre. Quand on y réfléchit, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que il remercie et il considère comme supérieur moralement, on parlait de morale au début de cette émission, sa mère, sa grand-mère, son oncle, qui ne sont pas capables de comprendre les tourments intellectuels qu'il peut vivre. Et comme s'ils étaient plus proches, finalement, d'une forme de grâce originelle que lui. Et que lui connaît les tours de la rhétorique, a des capacités littéraires, mais ne retrouve pas ce point profond d'humanité. Et il le cherche dans ce livre, et il y parvient, c'est-à-dire qu'il arrive à retrouver notamment la clarté de l'enfance. Moi, pour moi, un des signes de l'excellence littéraire et de la supériorité littéraire, c'est quand les auteurs parviennent, comme arrive à le faire Pagnol sur Le Garlaban, à montrer l'enfance dans toute sa lumière et sa simplicité. Et il le fait, pour ça, il faut un dépouillement de beaucoup d'éléments. Alors, ça a été beaucoup écrit, de la vie parisienne, d'un certain nombre de querelles philosophiques, d'une volonté de rancune, pour se concentrer exclusivement sur la création.
Alors, il dit ceci dans le premier homme. « Devant ma mère, je sens que je suis d'une race noble, celle qui n'en vit rien. » Et je vous remercie l'un et l'autre pour cette conversation. Je terminerai sur deux brèves citations. L'une qui va un peu dans votre sens, Vincent Duclert. En effet, Camus était un grand Européen. Et je pense à l'éloge que lui a consacré Miloš après sa mort, Czesław Miłosz. Camus était de ces intellectuels occidentaux peu nombreux qui m'ont tendu la main quand j'eus quitté la Pologne stalinienne en 1951, tandis que d'autres m'évitaient ou me considéraient comme un pestiféré ou un pêcheur contre l'avenir. Et puis ceci, très beau, la préface des Îles, le roman de Jean Grenier. Parmi les demi-vérités dont s'enchante notre société intellectuelle, figure celle-ci, excitante, que chaque conscience veut la mort de l'autre. Aussitôt, nous voilà tous maîtres et esclaves, voués à nous entretuer. Mais le mot maître a un autre sens, qu'il oppose seulement aux disciples, dans une relation de respect et de gratitude. Il ne s'agit plus alors d'une lutte des consciences, mais d'un dialogue qui ne s'éteint plus dès qu'il a commencé et qui comble certaines vies. Voilà. Et Camus était pour nous une sorte de maître. Vincent Duclert, je rappelle le titre de votre livre, Camus des pays de liberté. Il est publié aux éditions Stock et vous avez collaboré, Vincent Trémollet-Villers, au Figaro hors-série Camus, l'écriture, révolte et nostalgie. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Marie-Laure Ciboulet. À la technique aujourd'hui, Alain Joubert, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.